J'aimerais alors aujourd'hui vous présenter le concept de nationalisme sexuel et vous montrer en quoi ce concept et en particulier son sous-concept, donc le fémo-nationalisme, permettent d'apporter des éléments de réponse pour comprendre la controverse actuelle autour de la comparabilité entre la chirurgie esthétique génitale et l'excision. Donc, à savoir, pourquoi le fait même de comparer la chirurgie esthétique génitale et l'excision, qui sont deux pratiques de modification génitale féminine, est controversé. Donc, en fait, à travers le concept de nationalisme sexuel, j'aimerais vous montrer que derrière une comparaison, ou plutôt une volonté de non-comparaison entre ces deux pratiques, se cachent en réalité des enjeux politiques bien plus vastes qui touchent à l'identité nationale et à comment une société perçoit ceux qu'elle définit comme étant les autres. Donc, ce que j'argumente dans ma thèse, c'est que la chirurgie esthétique génitale représente en quelque sorte le nous que l'on essaye de dissocier du eux, à savoir les immigrés et les sociétés qui pratiquent l'excision. Donc, mon exposé se déroulera en trois parties. Premièrement, je vais vous présenter le concept de nationalisme sexuel et ses déclinaisons contemporaines, à savoir l'homonationalisme et le fémonationalisme. Ensuite, je vais donner un portrait général de l'excision et de la chirurgie esthétique génitale pour vous montrer quels sont les possibles chevauchements entre ces deux pratiques. Et puis, ensuite, on va parler des enjeux dans la controverse et comment les discours dans la sphère publique, à savoir dans la parole des experts, dans les médias, mais aussi dans la parole des politiciens, font sens ou plutôt non-sens de la comparabilité entre l'excision et la chirurgie esthétique génitale. Et pour illustrer ce dernier point, je vais vous présenter les résultats de mon analyse des débats parlementaires suisses au sujet de la nouvelle norme pénale contre les mutilations génitales féminines. Et je discuterai de sa toute première application qui a eu lieu cet été dans le canton de Neuchâtel et les interrogations que cette jurisprudence suscite. Donc, le nationalisme sexuel est un concept qui dénote le chevauchement entre les discours sur la sexualité et les discours sur la citoyenneté dans le processus d'établissement des frontières nationales. C'est-à-dire qu'il théorise comment la définition de la nation influence la construction des normes sexuelles et de la sexualité dite respectable et comment, à leur tour, ces normes façonnent l'identité nationale. Donc, ce concept est basé sur les travaux de l'historien Georges Moss, qui montre comment la citoyenneté et la sexualité ont été discutées en relation avec des figures d'altérité. Donc, il décrit par exemple comment au XIXe siècle, les Juifs et les peuples africains étaient présentés comme des contre-exemples de ce qu'il appelle la respectabilité bourgeoise. Et des contre-exemples pourquoi? Parce qu'à l'époque, les Juifs et les peuples africains étaient perçus comme ayant une sexualité déviante, à savoir des comportements sexuels hypersexualisés, non contrôlés et donc amoraux. Et les discours qui mobilisent la rhétorique du nationalisme sexuel sont adressés à un public national. Donc, pour restaurer le statut de la nation lorsque l'on estime que l'identité nationale est affaiblie par ce que Anna Triandafilidou a nommé une présence menaçante de personnes qui représentent dans l'imaginaire collectif national des figures d'altérité négatives, internes ou externes. C'est-à-dire que l'identité nationale est présentée comme menacée par un ennemi étranger qui se situe soit à l'intérieur des frontières de l'État-nation, comme les immigrés par exemple, soit à l'extérieur, à savoir des populations dans d'autres pays. Et aujourd'hui, on voit que dans la littérature, il y a que la rhétorique du nationalisme sexuel est mobilisée de la même façon dans différents contextes nationaux, mais parfois en substance avec deux conceptions opposées de la sexualité dite respectable. Alors, premièrement, à l'image de ce que Georges Moss a décrit, le nationalisme sexuel dénote une définition étroite de la sexualité dite respectable, à savoir qu'elle est principalement limitée aux rapports conjugaux et à la sexualité reproductive. Et là, elle met l'accent sur le rôle traditionnel des femmes indigènes dans la reproduction de la race nationale. Et ici, donc, les discours qui mobilisent la rhétorique du nationalisme sexuel mettent en avant la vertu morale de l'État-nation par le fait que celui-ci promeut des politiques familiales conservatrices. Deuxièmement, le nationalisme sexuel peut aussi définir dénoter une définition élargie de la sexualité dite respectable, puisqu'elle autorise la sexualité non reproductive et la sexualité hors mariage. Donc ici, le discours public dresse un portrait idéaliste de la nation en le présentant comme respectueux des valeurs démocratiques et des droits humains, tels que l'égalité de genre, les droits des femmes et les droits des personnes LGBTQI. En d'autres termes, les discours qui mobilisent la rhétorique du nationalisme sexuel mettent en avant la vertu morale de l'État-nation par le fait que celui-ci promeut des politiques familiales progressistes, ou du moins parce qu'il y a une acceptation politique de l'égalité de genre et des différentes formes de sexualité. Donc ici, la nation est représentée publiquement comme une démocratie sexuelle, pour reprendre le terme d'Éric Fassin, à savoir une société qui exige politiquement la liberté sexuelle, l'égalité de genre et l'égalité entre les différentes sexualités. Mais la rhétorique du nationalisme sexuel est surtout renforcée par le fait que les discours nationalisent des principes que l'on pourrait qualifier d'universels, comme les droits humains, en prétendant que ceux-ci sont garantis au sein de la nation et défendus par la nation. En d'autres termes, des principes universels sont présentés comme des principes nationaux afin de permettre la stigmatisation de ceux qu'on décrit comme étant les autres, qui sont assignés d'office à un système de valeurs adverses. C'est pourquoi la rhétorique du nationalisme sexuel présente la nation comme moderne et tolérante des différentes formes de sexualité, et ce faisant, elle construit la figure de l'altérité comme étant intolérante et enracinée dans le primitivisme. Et deux chercheuses, Yasbir Buhar et Sarah Faris, ont développé chacune un sous-concept pour désigner les principaux domaines discursifs où la rhétorique du nationalisme sexuel, selon cette deuxième perspective, est mobilisée: l'homonationalisme et le fémonationalisme. Donc, dans son livre Terrorist Assemblages, la théoricienne queer américaine Yasbir Buhar montre comment les droits des personnes LGBTQI sont mis en avant, pour justifier la supériorité morale d'un État, alors que celui-ci mène dans le même temps des actions contraires aux droits humains. Et elle cite comme exemple la guerre contre le terrorisme par les États-Unis et la colonisation des territoires palestiniens par Israël. Et cette forme de discours qu'elle nomme l'homonationalisme représente l'État-nation comme progressiste en termes de droits LGBTQI et affirme ainsi la supériorité des valeurs de ces valeurs sur celles de territoires occupés ou d'anciennes colonies, par exemple, qui sont, elles, accusées d'être homophobes. Et cela s'applique également dans les pays d'immigration, où l'homonationalisme est mobilisé pour présenter les migrants africains et musulmans comme intolérants envers l'homosexualité en raison des interdictions légales qui existent dans certains pays d'origine. Mais ce sont des interdictions légales qui ont parfois été instaurées par les anciens colonisateurs eux-mêmes, comme la norme pénale contre l'homosexualité en Ouganda, par exemple, qui a été instaurée par les Britanniques durant la colonisation. Et donc la défense des droits des personnes LGBTQI devient, pour certaines élites politiques, un moyen de stigmatiser les minorités ethniques sous prétexte de promouvoir les droits humains. Par exemple, Geert Wilders, qui est le chef du Parti pour la liberté aux Pays-Bas, appelle à des politiques anti-islamiques. Mais en contre-argument aux accusations d'islamophobie, il déclare qu'il n'est pas contre les musulmans, mais contre leur religion, qu'il considère comme incompatible avec les valeurs dites néerlandaises, et cite la liberté d'orientation sexuelle. Donc, en tant que tel, son discours ne semble pas xénophobe au grand public, puisqu'il souligne que les migrants sont bienvenus, pour autant qu'ils se conforment aux valeurs dites néerlandaises. Et donc, paradoxalement, comme le note Éric Fassin, l'intolérance envers les musulmans est justifiée ici comme étant le meilleur moyen de préserver la tolérance nationale néerlandaise. Et de la même façon, la sociologue italienne Sara Faris a montré que cette rhétorique est également mobilisée avec le droit des femmes. Donc, elle constate que dans plusieurs pays européens, un discours xénophobe ou nationaliste est mobilisé au nom des droits des femmes, tant par les partis nationalistes que par certaines féministes. Et ici, je souligne certaines féministes. Donc, elle a développé le concept de fémonationalisme pour nommer cette alliance contre nature, qu'elle appelle, entre les politiciens de droite radicale, les néolibéraux, les offices pour l'égalité de genre et certaines féministes, et la convergence de leurs projets politiques. Donc, pour comprendre pourquoi des politiciens de droite radicale qui défendent des politiques familiales conservatrices se présentent soudainement comme porte-parole des droits des femmes et de l'égalité de genre, Sara Faris explique qu'en fait, il faut y voir une mobilisation opportuniste pour consolider des projets nationalistes. Et en effet, les partis de droite populistes adoptent le discours féministe d'une part et continuent à défendre des politiques familiales conservatrices d'autre part, car ce sont là deux stratégies complémentaires qui visent à préserver la nation par l'expulsion de eux, qui ne respecteraient donc pas les droits des femmes, et la reproduction de nous par des politiques familiales conservatrices. En d'autres termes, la défense des droits des femmes et de l'égalité de genre est utilisée dans le discours public comme un argument facilement acceptable de tous pour justifier des mesures restrictives en matière d'immigration et la stigmatisation des minorités ethniques. Et dans ce contexte, le sexisme est racisé puisque l'on accuse uniquement l'autre masculin non occidental d'apporter le sexisme en Europe et à ce titre qu'il représente une menace non seulement pour ses compatriotes féminines mais également pour les femmes indigènes comme des violeurs potentiels par exemple. Et c'est pourquoi la rhétorique du fémonationalisme inclut d'une part un récit de sauvetage qui représente les femmes non occidentales comme prisonnières de traditions qu'il faut sauver. Et d'autre part, elle présume que les femmes indigènes ont atteint un niveau d'émancipation supérieur et sont donc à ce titre des exemples pour les femmes non occidentales. Et donc cette présomption repose sur l'idée que les pays occidentaux sont, dans ce que Angela McRobbie a décrit comme une ère post-féministe, où le féminisme est désuet pour nous, mais toujours bon pour eux. Et c'est pourquoi, comme le suggèrent Sara Faris et Éric Fassin, le voile et l'excision sont considérés comme des exemples du primitivisme de l'autre non occidental. D'où le fait que les voix qui contestent la croyance d'une passivité ou d'un manque d'émancipation chez les femmes non occidentales, comme les partisanes du féminisme islamique par exemple, ou les femmes qui affirment avoir consenti à leur excision, ne sont pas entendues, voire sont jugées irrationnelles. Alors, vous l'aurez compris, dans la rhétorique du nationalisme sexuel, la construction de l'altérité passe par un discours éminemment dichotomique qui ne laisse aucune place aux détails qui viendraient dépeindre un portrait plus nuancé. Et en effet, l'argument ou le mythe d'une supériorité morale du « nous » sur « eux » ne se tient que par la généralisation excessive de certains éléments et l'utilisation de termes positifs pour l'un et de termes négatifs pour l'autre. Donc, pour que le portrait idéalisé du « nous » et le portrait négatif que l'on dépeint du « eux » passent comme une vérité évidente, il faut que les discours ne mettent en avant que certains éléments et en thèse d'autres pour masquer les incohérences qui surviennent parfois entre les discours et la pratique. Un exemple, prétendre que l'égalité de genre est un acquis chez nous, alors que dans les faits, l'égalité salariale n'est encore pas complètement instaurée. Et c'est exactement ce qui se passe dans la controverse de la comparabilité de l'excision et de la chirurgie esthétique génitale, puisque ces deux pratiques de modification génitale sont présentées chacune comme une pratique unique et homogène, alors qu'en réalité, ce sont des termes chapeaux qui recouvrent toute une panoplie de variations de la pratique. Et pour mieux comprendre comment le mécanisme de généralisation excessive s'opère, c'est-à-dire quels sont les éléments qui seront retenus dans les discours pour empêcher cette comparaison entre les deux pratiques de modification génitale et ce que j'argumente dans ma thèse, empêcher une comparaison entre nous et eux. J'aimerais prendre quelques minutes pour vous donner un bref rappel de ce que sont ces deux pratiques génitales et un portrait un peu plus nuancé de ces deux pratiques. Alors, l'excision. Donc, l'Organisation mondiale de la santé a établi une classification en distinguant quatre types que vous voyez ici, que j'ai regroupé donc dans un tableau et que je vais reprendre tout au long de ma présentation. Donc, selon la classification de l'OMS, ce qu'on appelle excision en français inclut quatre types de pratiques qui n'ont pas les mêmes implications au niveau médical ni au niveau social. Donc, le type 1 consiste en l'ablation partielle ou totale du gland clitoridien, et je précise bien que c'est le gland clitoridien et pas tout le clitoris, car vous le savez, le clitoris fait au moins 10 cm à l'intérieur du corps féminin, et c'est donc que le petit bout qui dépasse, que l'on voit, qui est sectionné. Ou bien le type 1, ça peut être également l'ablation du prépuce clitoridien. Le type 2 consiste en l'ablation partielle ou totale du gland clitoridien et des petites lèvres, et parfois des grandes lèvres. Le type 3 est aussi ce qu'on appelle l'infibulation, qui est donc le type d'excision le plus sévère, puisqu'il consiste en le rétrécissement de l'orifice vaginal, avec recouvrement par l'ablation et l'accolement des petites lèvres et ou des grandes lèvres, avec ou sans excision du gland clitoridien. Et puis finalement, le type 4, c'est toutes les autres interventions, c'est un peu toutes celles qu'on n'a pas classifiées, telles que piquer le clitoris pour avoir une goutte de sang, qui est par exemple une pratique qui devient de plus en plus répandue en Érythrée, comme étant une alternative symbolique à l'excision traditionnelle. Alors, selon le dernier rapport de l'OMS, il y aurait environ 200 millions de femmes et de filles qui vivent avec une excision dans le monde ou qui risquent de l'être. Elles sont concentrées majoritairement en Afrique, comme vous le voyez ici, mais également dans certains pays de la péninsule arabique, par exemple au Yémen, ou du continent asiatique, notamment en Indonésie et en Malaisie. Et sur cette carte, on voit bien les différentes prévalences entre les pays par la nuance de violet qui va donc du plus clair où la prévalence est la plus faible au plus foncé où la prévalence est la plus forte. En d'autres termes, ce que cela signifie, c'est que pas toutes les femmes d'un même pays ne sont concernées par l'excision. Donc, par exemple, en Somalie, on estime que 98% des femmes et filles sont excisées, alors qu'en Ouganda, c'est de l'ordre du 1% au niveau national. Alors, tout au long de cette présentation, je vais prendre des exemples de pays africains, non seulement parce que les immigrés en Suisse concernés par l'excision sont majoritairement d'origine africaine, mais également parce que, comme vous le voyez sur cette carte, tous les pays en orange, qui sont donc principalement des pays asiatiques, ce sont des pays où l'on sait que certaines communautés ethniques pratiquent une forme d'excision, mais il n'y a pas d'études et il n'y a pas de statistiques dans ces pays-là. Alors, comme on l'a vu, l'excision, c'est un ensemble de pratiques, des pratiques qui varient d'un pays à l'autre et souvent aussi à l'intérieur d'un pays, d'une communauté à l'autre. Par exemple, entre la Mauritanie, la Guinée et la Somalie, ce ne sont pas les mêmes types d'excisions qui sont pratiquées. Donc, en Mauritanie, c'est plutôt un type 1, en Guinée, plutôt un type 2 et en Somalie, plutôt un type 3, donc l'infibulation. Selon les pays, l'excision ne se pratique pas non plus au même âge. Cela va de la naissance en Mauritanie à plutôt l'enfance en Somalie. Et en Guinée, certaines communautés le pratiquent avant le mariage, c'est-à-dire vers l'âge de 20 ans. Et puis pour le mode opératoire, là également, il y a des différences. Au Sénégal, c'est uniquement accompli par des praticiens traditionnels qui n'ont pas suivi de formation classique en médecine, alors qu'en Égypte, par exemple, l'excision est majoritairement pratiquée par le personnel soignant, c'est-à-dire médecin, mais ça peut aussi être infirmière ou sage-femme. Alors les conséquences en termes de santé et de sexualité varient également et elles ne sont pas systématiques, c'est-à-dire que pas toutes les femmes excisées ne connaissent ces complications. Et les conséquences varient notamment en fonction du type d'excision. Donc par exemple, un type 1 qui affecte le gland clitoridien peut entraîner une perte de la sensibilité clitoridienne. En revanche, un type 3, donc l'infibulation, comme l'orifice vaginal est rétréci à son minimum, il peut y avoir des difficultés à uriner, des douleurs durant les rapports sexuels et puis des complications à l'accouchement. Mais pas forcément une perte de la sensibilité clitoridienne parce que pas toutes les femmes infibulées n'ont subi une ablation du gland clitoridien. Et puis, qu'en est-il du plaisir sexuel? Parce que contrairement à ce que l'on entend de manière récurrente, l'absence de plaisir sexuel n'est pas le propre des femmes excisées. Et il y a une étude en 2007 qui le montre très bien. Ce sont des médecins italiens qui ont interrogé 137 femmes excisées en Italie de tout type confondu. Et sur ces 137 femmes excisées qui sont en bonne santé, dont 82 sont infibulées, donc de type 3, 69% d'entre elles affirment toujours ressentir un orgasme lors d'une pénétration vaginale, 17% souvent et seulement 12% rarement et 2% jamais. Alors, les auteurs expliquent en fait que les femmes qui n'ont pas souffert de graves complications dues à leur excision et qui sont heureuses dans leur couple peuvent ressentir du plaisir sexuel. Et de plus, les auteurs soulignent que le contexte socioculturel est un facteur non négligeable sur la qualité de vie sexuelle des migrantes, puisque vivre dans un pays où les cultures ne sont pas partagées, voire stigmatisées, peut altérer considérablement l'estime de soi. Alors, l'estime de soi peut être affectée dans un contexte de migration, c'est-à-dire dans un nouvel environnement où l'excision n'est plus perçue positivement. C'est-à-dire que les femmes excisées passent de femmes normales dans leur pays d'origine à femmes mutilées dans les pays d'immigration. Et évidemment, cela peut avoir des conséquences sur leur sexualité, on l'a dit, mais également sur leur santé psychique. Et il y a une psychiatre érythréenne, la doctoresse Fana Assefo, qui a interrogé des femmes immigrées en Allemagne, dont l'une dit, je cite, « Je suis fière d'être excisée, mais ici on me dit que je suis mutilée. J'ai par conséquent développé depuis plusieurs années des problèmes psychologiques, tels que des problèmes de sommeil et des troubles alimentaires. » Il y a une deuxième qui dit, « Je me demande pourquoi c'était nécessaire, donc l'excision. » Entre-temps, j'ai développé une attitude ambivalente à l'égard de mon excision parce que j'ai appris ici que c'est une violation des droits humains. Mais ce n'est pas pour ça que je déteste ma mère. Elle voulait me garantir un bon avenir. Alors, les raisons invoquées pour pratiquer l'excision sont multiples également et il y a des raisons qui sont spécifiques à la modification effectuée sur le corps féminin. Donc, par exemple, lorsque le prépuce clitoridien est sectionné, c'est parce qu'on estime qu'il est le pendant du prépuce masculin, à savoir qu'on veut rétablir le genre en retirant la partie dite masculine du corps féminin. Parce que, vous le savez peut-être, mais toutes les sociétés qui pratiquent l'excision pratiquent également la circoncision masculine. Ensuite, lorsqu'on coupe le gland clitoridien, c'est pour maîtriser le désir sexuel féminin, et je mets un accent sur le désir et non plus le plaisir, puisque comme on l'a vu juste avant, le plaisir est possible avec l'excision. Mais ce qu'on veut ici, c'est limiter les demandes sexuelles des femmes. Troisièmement, l'ablation des petites ou grandes lèvres, c'est pour embellir la vulve, puisque la norme esthétique est d'avoir un sexe lisse. Et puis, dans le cas spécifique de l'infibulation, le fait de rétrécir l'orifice vaginal, c'est pour garantir la virginité jusqu'au mariage et la chasteté de l'épouse. Mais de manière générale, l'excision permet une appartenance sociale Premièrement, en garantissant à la fille excisée de pouvoir un jour se marier avec un membre de sa communauté. Deuxièmement, ça lui permet de changer de statut en passant d'enfant à femme adulte lorsque l'excision est faite à l'adolescence, par exemple. Et troisièmement, de renforcer des liens d'appartenance de la fille à sa communauté. Et à ces mêmes arguments s'ajoutent, dans un contexte d'immigration, la loyauté envers la famille restée au pays et le maintien de la tradition, à savoir le maintien de repères culturels familiers lorsque l'on vit dans un nouvel environnement. Mais ce que l'on constate dans un contexte d'immigration, c'est qu'en réalité, l'excision tend peu à peu à perdre sa raison d'être aux yeux des populations immigrées. Donc, il y a deux études récentes qui ont montré que le taux d'opinion défavorable envers l'excision est plus élevé chez les immigrés que chez les personnes des pays d'origine. Et les études expliquent que cela notamment est dû au fait que le taux d'opinion défavorable augmente avec le nombre d'années de résidence dans un pays d'accueil où l'excision n'est pas pratiquée. Ce qui montre bien que l'intégration est un processus qui s'établit dans le temps. Et ce changement d'attitude se voit très bien dans un cas qui a été porté devant les tribunaux pénaux de Zurich en 2008. Et ce cas judiciaire représente le premier et seul cas connu à ce jour en Suisse d'une excision qui a été commise sur le sol suisse. Et cette excision date de 1996, donc d'il y a 22 ans. Alors, il s'agit de parents somaliens qui ont immigré en Suisse au début des années 90 et qui ont mandaté un médecin somalien pour exciser leur première fille en Suisse. Et les parents avaient au préalable parlé de ce projet d'excision à leur assistante sociale qui n'a malheureusement ni essayé de les en empêcher, ni les a avertis que l'excision était illégale en Suisse, mais leur a juste demandé si c'était vraiment nécessaire. Quelques années plus tard, la mère a réalisé que pas toutes les femmes en Suisse ne sont excisées, ni celles qui sont musulmanes, et que l'excision n'est pas une obligation religieuse comme elle le croyait. De ce fait, les parents ont cessé la pratique sur leurs deux filles cadettes, et la mère s'est engagée durant 2 ans à faire de la prévention dans un cercle de femmes somaliennes. Alors, que révèle ce cas ? Premièrement, c'est que contrairement à aujourd'hui dans les années 90, quand cette excision a été commise, il n'y avait pas ou peu de mesures de prévention contre l'excision en Suisse. Deuxièmement, que l'excision a été commise durant les premières années de séjour en Suisse, alors que les parents affirment qu'ils ne savaient pas que la pratique était illégale dans le pays et pour cause, même l'assistante sociale qui aurait pu les avertir ne l'a pas fait. Et enfin, on voit bien que ce couple de parents a renoncé avec le temps à exciser leurs deux plus jeunes filles. Alors maintenant, la chirurgie esthétique génitale. Alors, il y a une chirurgie esthétique génitale qui, depuis le début des années 2000, est en pleine expansion dans le monde. Et en France, il me semble même qu'elle est remboursée par la Sécurité sociale. C'est la nymphoplastie. Alors, la nymphoplastie consiste en l'ablation partielle ou totale des petites lèvres, et elle est promue sur les sites de chirurgie plastique avec des arguments comme le confort dans les vêtements, par exemple, comme sur cette image que j'ai reprise d'un site de chirurgien plasticien, de pouvoir mettre ce string sans avoir des petites lèvres qui dépassent. Et comme le montre la psychologue clinicienne Sarah Piazza dans sa thèse de doctorat, les patientes de nymphoplastie qui ont réellement des petites lèvres avec une longueur anormales, avec beaucoup de guillemets, sont rares. Et elle observe que même chez des patientes qui disent avoir une gêne physique pour demander une nymphoplastie, en réalité se cache toujours une demande due à une gêne esthétique. Alors, il manque actuellement des études sur la satisfaction et les conséquences post-opératoires qui soient systématiques et indépendantes de ces chirurgies esthétiques génitales, indépendantes, c'est-à-dire qui ne sont pas effectuées par les chirurgiens eux-mêmes qui font ces pratiques-là. Néanmoins, on peut citer à titre d'exemple 2 conséquences possibles, l'une que j'ai tirée d'une interview que j'ai menée avec un chirurgien plasticien à Genève en 2011 et l'autre d'un témoignage que j'ai lu sur un forum féminin sur Internet. Donc le premier, c'est des déchirures à l'accouchement, Donc le chirurgien me dit, si la nymphoplastie est faite de façon sauvage, c'est-à-dire que si vous voulez schématiquement, vous avez des petites lèvres, disons comme ça, alors il me fait un dessin. Alors il y a des gynécologues mal formés qui coupent ça comme ça, et puis vous vous retrouvez avec des petites lèvres cicatricielles qui, lors de la dilatation de l'accouchement, peuvent effectivement poser des problèmes. Et puis la deuxième conséquence, c'est la perte de la sensibilité au niveau des organes génitaux et éventuellement aussi un traumatisme. Cette dame qui témoigne, elle dit « Salut, c'est peut-être tard, mais sache que chaque femme est différente. Moi, j'ai fait l'erreur de me faire opérer, la chirurgienne m'a ratée, je suis mutilée et en plus traumatisée. Je n'ai plus du tout les mêmes sensations. Si d'autres ont subi une nymphoplastie ratée, merci de m'en parler et de savoir comment vous vous en êtes sortie. » Alors, comme vous le voyez sur ce tableau, la nymphoplastie correspond au type 2, selon la classification de l'OMS des mutilations génitales féminines. Mais la chirurgie esthétique génitale consiste aussi en une variété d'interventions sur les organes génitaux féminins. Et ici, je ne mentionnerai que la clitoridectomie esthétique, à savoir l'ablation du gland clitoridien pour des raisons cosmétiques. Pourquoi ? Parce que l'année passée, cette opération a fait grand bruit en Angleterre, car un chirurgien, le docteur David Beale, a été dénoncé à la police par une de ses collègues pour avoir fait ce qu'elle considérait une mutilation génitale féminine. Mais le docteur a donc été acquitté par le tribunal sous prétexte qu'il s'agissait d'une femme adulte qui, après avoir fait une nymphoplastie, trouvait que du coup le gland de son clitoris était trop voyant et a donc demandé à le réduire également. Donc l'argument du consentement est, comme dans le cas britannique, souvent l'argument mobilisé pour distinguer l'excision et la chirurgie esthétique génitale. Or ça, c'est un discours qui omet deux éléments. Premièrement, que la chirurgie esthétique génitale concerne aussi les mineurs, puisqu'en Suisse comme en France, certaines patientes de nymphoplastie ou de chirurgie esthétique génitale ont moins de 16 ans. Et deuxièmement, comme on l'a vu, l'excision est aussi pratiquée sur des femmes adultes dans certains pays. En d'autres termes, on assiste à une infantilisation des femmes adultes non blanches, alors qu'en Angleterre, par exemple, on mobilise l'argument de la maturité des mineurs, c'est-à-dire leur capacité de discernement, pour accomplir une chirurgie esthétique génitale. Ce qui amène de nombreux chercheurs à mettre en garde depuis les années 90, pardon, chez nous on dit 90, alors je suis encore con, de l'incohérence produite par ce double standard qui légalise la chirurgie esthétique génitale d'un côté et interdit l'excision de l'autre. Donc, en résumé, on voit que l'excision et la chirurgie ont plusieurs points communs. D'un côté, l'excision est aussi pratiquée sur des femmes adultes. Elle comporte également des motifs esthétiques et elle est également médicalisée dans certains pays. De l'autre, la chirurgie esthétique génitale est aussi accomplie sur des mineurs. Elle inclut aussi l'ablation du gland clitoridien, qui est souvent dénoncée dans le cas de l'excision, et peut aussi entraîner des conséquences néfastes sur la santé des femmes. En d'autres termes, si on peut admettre que l'excision et la chirurgie esthétique génitale ne sont pas des pratiques totalement identiques, on ne peut tout de même pas nier les chevauchements qui existent entre ces deux pratiques. Et en vous disant ça, je ne suis pas en train de nier la gravité de l'excision parce que je suis moi-même issue d'une famille égyptienne qui est donc en Égypte un pays à forte prévalence d'excision. Et donc je sais quelles sont les séquelles possibles avec cette pratique. Mais ce que je souhaite ici, c'est mettre en perspective ces deux pratiques de modification génitale, puisque la légalité et le succès croissant des chirurgies esthétiques génitales nous invitent à repenser en fait les messages de prévention contre l'excision pour que ce soit un message qui soit cohérent et non stigmatisant. Alors, on en vient donc à la controverse et plus précisément à ma problématique. Donc, dans ma thèse, j'examine les constructions de sens, donc en anglais les frames, qui sont données à la mutilation génitale féminine. En d'autres termes, j'ai voulu comprendre qu'est-ce que l'on entend par mutilation génitale féminine. Alors pourquoi? Parce que l'OMS définit les mutilations génitales féminines comme étant, je cite, toutes les interventions aboutissant à une ablation partielle ou totale des organes génitaux externes de la femme et ou toute autre lésion des organes génitaux féminins pratiquée à des fins non thérapeutiques. Et la Suisse a instauré en 2012 une loi spécifique contre les mutilations génitales féminines en se basant sur cette définition pour formuler son libellé de loi. Or, la Suisse, comme la plupart des pays européens, fait une exception des chirurgies esthétiques génitales. Il y a seulement le Danemark qui a une interprétation différente de sa loi spécifique, puisque à travers sa norme pénale contre les mutilations génitales féminines, le Danemark interdit également les chirurgies esthétiques génitales. Alors, cette exception pour la chirurgie esthétique génitale est en réalité conforme au positionnement de l'OMS à l'égard de la chirurgie esthétique génitale. Puisque dans ses directives de 2008, l'OMS dit « Certaines pratiques telles que la chirurgie cosmétique génitale et la réparation de l'hymen, qui sont légalement acceptées dans de nombreux pays et ne sont généralement pas considérées comme des mutilations sexuelles féminines, entrent de fait dans le cadre des définitions utilisées ici. » En d'autres termes, les lignes directrices de 2008 de l'OMS, qui sont publiées une année après que le Congrès américain des obstétriciens et gynécologues ait recommandé de ne pas pratiquer les chirurgies esthétiques génitales du fait d'un manque d'études sur les conséquences de ces interventions, ces lignes directrices de l'OMS semblent donc montrer une compréhension inclusive de ce que l'on pourrait nommer une mutilation génitale féminine. Seulement voilà, comme le souligne l'anthropologue américaine Janice Boddy, ce paragraphe ne s'arrête pas là. Alors l'OMS précise ensuite, toutefois, on a considéré qu'il était important de conserver une définition large des mutilations sexuelles féminines afin d'éviter les échappatoires qui pourraient permettre à la pratique de perdurer. La pratique, à savoir l'excision. En d'autres termes, l'OMS semble ici presque s'excuser du fait que la chirurgie esthétique génitale entre dans sa définition sur les mutilations génitales féminines. Et 8 ans plus tard, donc dans ses directives de 2016, l'OMS est encore plus transparente dans sa position à l'égard de la chirurgie esthétique génitale puisqu'elle affirme, je cite, « Ainsi, bien que ne faisant pas partie du mandat immédiat de ces lignes directrices, le groupe qui a développé ces directives a ainsi différencié les mutilations sexuelles féminines des chirurgies esthétiques génitales. Dans l'éventualité où une personne entièrement autonome et capable de donner son consentement demanderait une chirurgie esthétique génitale, elle devrait recevoir des conseils préopératoires complets, y compris une discussion sur les variations normales et les changements physiologiques au cours de sa vie, ainsi que sur les conséquences involontaires de la chirurgie esthétique sur la région génitale. Le manque de connaissances sur les répercussions et le manque de données sur l'impact des changements consécutifs pendant la grossesse ou la ménopause devraient également être discutés et considérés comme faisant partie du processus du consentement éclairé. En d'autres termes, on remarque 2 choses. Premièrement, c'est que l'OMS s'attend à ce que les chirurgiens informent leurs patientes de l'absence de recherche sur les conséquences post-opératoires de la chirurgie esthétique génitale. Ce qui signifie que le consentement des patientes qui subissent une intervention de chirurgie esthétique génitale, malgré cet avertissement, est considéré comme étant éclairé sur des risques qui sont donc inconnus à ce jour. Et deuxièmement, l'OMS semble se baser sur le consentement pour exclure la chirurgie esthétique génitale de sa définition sur la mutilation génitale féminine. Or, comme vous l'avez remarqué sans doute, il n'est nullement question de consentement dans la définition de la mutilation génitale féminine de l'OMS. C'est-à-dire que cette définition-là s'applique quel que soit l'âge de la personne, donc sur des enfants comme sur des adultes, qu'ils aient consenti ou non. En d'autres termes, à travers ma première question de recherche, j'aimerais comprendre pourquoi et comment l'excision est formulée comme un problème social à résoudre, alors que les chirurgies esthétiques génitales ne sont pas considérées comme telles, et ce, bien qu'elles correspondent techniquement à la définition internationale de la mutilation génitale féminine. Ce qui m'amène à ma deuxième question de recherche, qui est donc de comprendre, au vu du double standard qui est établi entre ces deux pratiques, quelles sont les conséquences en termes de relations de pouvoir que l'on peut observer entre les femmes indigènes et les femmes immigrées. Alors, pour répondre à ces questions, j'ai collecté toutes les interventions parlementaires en Suisse au niveau national, c'est-à-dire les motions, les initiatives, les postulats déposés par les députés, qui mentionnent l'excision ou la chirurgie esthétique génitale ou un terme équivalent, comme vous le voyez ici, entre 1992 et 2012. Et puis, j'ai mené une analyse de discours sur les débats parlementaires et les documents officiels qui sont relatifs à la loi suisse contre la mutilation génitale féminine qui est donc entrée en vigueur en 2012. Donc, avant d'entrer plus en détail dans mon analyse, j'aimerais dire quelques mots sur les dispositions légales antérieures à cette norme spécifique contre les MGF. Alors, MGF, c'est l'acronyme de mutilation génitale féminine. Donc, avant l'entrée en vigueur en 2012 de cette loi, l'excision était déjà un acte répréhensible en Suisse. Donc, l'ancienne loi condamnait la pratique par des articles du code pénal relatifs soit à la lésion corporelle simple pour les types 1A et 4, soit à la lésion corporelle grave pour tous les autres types. Alors, pourquoi ? Pourquoi est-ce que le Parlement veut quand même faire une loi spécifique contre les mutilations génitales féminines ? Maria Roth Bernasconi, qui est une socialiste et conseillère nationale à l'origine de l'élaboration de ce projet de loi, affirme que le Parlement souhaitait avoir une loi symbolique. Et elle dit, je la cite, « Si la punition des mutilations sexuelles est d'un point de vue juridique effectivement déjà possible sur cette base, la mention spécifique de ce crime a un but pédagogique ». Notamment auprès de la population la plus touchée par ce phénomène, les migrants et migrantes. Et l'analyse des objets parlementaires montre que l'excision a commencé à devenir un sujet politique en Suisse en 1992, lorsqu'un député a demandé au gouvernement de participer à la lutte internationale contre l'excision qui se pratique dans certains pays. Et de ce moment et jusqu'au début des années 2000, on voit que plusieurs députés ont demandé au gouvernement si la Suisse menait assez d'actions pour empêcher l'excision en Afrique et dans quelle mesure il était possible de considérer l'excision comme un motif d'asile en Suisse. Et ce qui est intéressant, c'est de constater que le gouvernement, jusqu'à là, plaide à chaque fois pour un statu quo en affirmant que la Suisse vient déjà suffisamment en aide aux ONG en Afrique et que l'excision ne peut pas être considérée comme un motif d'asile politique, puisque le fait de refuser une excision n'est pas réprimé par l'État du pays d'origine, et en ce sens ne peut donc pas être considéré comme un exil politique. Mais voilà, en 2005, on remarque un changement dans l'attitude du gouvernement qui va soutenir le dépôt de ce projet de loi spécifique contre les mutilations génitales féminines. Et en effet, on remarque qu'à ce moment-là, il y a une forte augmentation en Suisse de l'immigration africaine et en particulier érythréenne dès les années 2000. Et donc, en fait, l'excision n'est plus seulement vue comme une pratique faite en Afrique, mais devient une pratique faite en Suisse. Donc, un problème national que le Parlement veut résoudre. Et donc, comme l'affirme Maria Roth Bernasconi, je la cite, « Une récente étude de l'UNICEF montre que notre pays n'est pas épargné par le problème. Le personnel médical et les services sociaux sont souvent confrontés à des femmes excisées. Fait plus inquiétant, l'étude affirme que les mutilations sexuelles se pratiquent aussi en Suisse. Face à cette situation, il est urgent d'agir. » Et l'appel de Maria Roth Bernasconi, qui est donc une féministe de gauche, va être très largement soutenue par les hommes, donc les députés de l'Union démocratique du centre, l'UDC. Donc l'UDC, c'est un parti de droite radicale qui est la première force politique en Suisse. Vous avez peut-être déjà vu ce magnifique poster qui est donc pour l'expulsion des moutons noirs. Voilà, ça c'est l'UDC. Donc, ce qui paraît à première vue étonnant, mais finalement le concept de fémonationalisme l'explique très bien, c'est que l'UDC, normalement, défend des politiques familiales conservatrices et prône le rôle traditionnel des femmes au foyer. Mais dans le cas de l'excision, l'UDC se déclare défenseur des droits des femmes et affirme qu'il faut sauver les femmes excisées et leurs filles. Et en fait, ce qu'on remarque, c'est que ça va leur donner un argument supplémentaire pour prôner l'expulsion des étrangers. De plus, on constate que cette proposition d'élaborer une loi spécifique aux mutilations génitales féminines a été approuvée presque universellement à 99% et 100% des deux chambres du Parlement suisse. Et en effet, le 1% restant représentait un député qui ne remettait pas du tout en question la loi sur les mutilations génitales féminines, mais plutôt contestait le fait qu'on exclue la circoncision masculine de cette loi. Et alors, ce niveau de consensus entre les députés est sans précédent dans l'histoire politique suisse, et c'est d'autant plus notoire que les questions relatives à l'immigration et aux droits des femmes constituent notamment des domaines de désaccord fréquents entre le Parti socialiste et l'UDC. Alors concrètement, comment ce consensus a été rendu possible? Ce qu'on constate, c'est que systématiquement, les députés qui ouvrent les débats parlementaires rappellent qu'il est urgent d'agir en s'appuyant sur une profusion de statistiques. Ce qui m'amène donc ici à dire que cela ressemble à une métaphore de l'épidémie, puisqu'on remarque que les estimations statistiques du nombre de femmes et fillettes excisées en Suisse et dans le monde sont constamment utilisées dans les discours des députés, non seulement pour montrer l'étendue du problème, mais également pour suggérer que si on ne fait rien, ce nombre va augmenter. En d'autres termes, les statistiques servent à construire l'excision comme un problème social à résoudre en nourrissant une panique morale qui va permettre de mobiliser une majorité de députés et ainsi démarrer le processus d'élaboration de cette loi. Et un second argument qui va être avancé par les députés, c'est dire qu'il y a un écart statistique entre le nombre estimé de femmes et fillettes excisées ou qui risquent de l'être, 7000 à l'époque en Suisse, et le nombre d'affaires judiciaires pour excision en Suisse, c'est-à-dire 3 à l'époque. Et c'est pourquoi les députés vont comparer différents modèles législatifs européens, notamment le suédois, l'italien et le français, car ils souhaitent adopter celui qui permettra le mieux de combler ce fameux écart statistique. Et ils décident alors de suivre le modèle suédois, qui est le premier pays à avoir adopté une norme pénale spécifique contre les mutilations génitales féminines, mais qui n'a que 2 affaires judiciaires au compteur. Et ce qui est intéressant, c'est de constater qu'ils ont expressément rejeté le modèle français, qui est pourtant celui qui affiche le taux d'affaires judiciaires le plus élevé d'Europe, à savoir 29, parce que, comme vous le savez, l'excision en France est condamnée par une disposition générale sur les mutilations corporelles, ce qui aurait signifié pour la Suisse de garder les dispositions qu'elle avait déjà et de renoncer au projet de loi. Et durant le processus d'élaboration de cette norme spécifique, les députés se sont basés sur la classification de l'OMS pour réunir tous les types d'excisions dans le nouvel article de loi 124 du Code pénal suisse. Et ils déclarent vouloir une norme exhaustive, au sens où ils veulent que toutes les formes d'excision, de la plus symbolique à la plus sévère comme l'infibulation, soient dorénavant considérées comme des lésions corporelles graves. Mais voilà, lors des débats, les députés réalisent qu'introduire ce nouvel article de loi serait beaucoup plus complexe que ce qu'ils se seraient imaginé, puisque des juristes les avertissent que cela va entraîner l'inclusion de la chirurgie esthétique génitale, des piercings et tatouages génitaux. Et comme l'affirme une députée dans le journal La Tribune de Genève, je la cite, « Durant nos travaux, des juristes nous ont signalé que les opérations de chirurgie esthétique des organes génitaux féminins représentaient un immense marché et que l'interdiction de toute intervention sans motif médical risquait d'y mettre fin. » Donc, pour éviter cette interdiction, les députés proposent au départ d'ajouter un alinéa qui autorise les femmes adultes à consentir à une pratique de modification génitale, mais cet alinéa crée un tollé parmi les acteurs de la société civile qui sont consultés lors des élaborations de lois en Suisse et qui accusent le Parlement de vouloir autoriser l'excision à l'âge adulte. C'est pourquoi le Parlement va faire marche arrière et décide d'interdire les pratiques de modification génitale également aux femmes adultes. Et le Parlement va donc argumenter ainsi, et je cite, « Ces jeunes femmes, donc les potentielles femmes qui demanderaient une excision, ne sont en réalité pas en mesure de se forger librement une opinion, ni de prendre une décision en toute indépendance. Elles subissent en effet le poids des traditions et l'extraordinaire pression sociale qui en résulte. De surcroît, elles ne sont pas autonomes sur le plan économique et leur statut au regard de la législation sur les étrangers est précaire. Tous ces facteurs font qu'elles ne sont pas à même de consentir librement à subir une mutilation génitale féminine. » Et ce qu'on constate, c'est que malgré la critique explicite qui est faite ici de la politique migratoire suisse, la seule partie de cette citation qui a été discutée dans les débats parlementaires est celle qui infantilise les femmes africaines immigrées et déclare leur impuissance face à la pression culturelle. Et cela illustre la dynamique du fémonationalisme qui repose sur des alliances entre des politiciens pro-féministes et des politiciens de droite radicale, précisément sur la base de la culturalisation de l'oppression féminine. Et en effet, la reconnaissance des inégalités structurelles risquerait de bloquer une telle alliance puisqu'elle mettrait en évidence et donc remettrait en question la position politique de l'UDC qui est le principal responsable en Suisse des mesures de plus en plus restrictives pour les immigrés et les requérants d'asile en particulier. Donc au final, le Parlement a adopté l'article 124 du Code pénal qui énonce donc que celui qui aura mutilé des organes génitaux féminins aura compromis gravement et durablement leur fonction naturelle ou leur aura porté toute autre atteinte, sera puni d'une peine privative de liberté de 10 ans au plus ou d'une peine pécuniaire de 180 jours amende au moins. Donc comme on le remarque ici, cette loi est formulée de manière générale puisqu'on ne parle pas ouvertement d'excision. En d'autres termes, cette loi est une interdiction globale qui ne fait pas de distinction entre les pratiques ni selon l'âge des personnes concernées. Et en effet, les députés ont adopté cette formulation qui ressemble à la définition de l'OMS, car comme le confie un député UDC, je le cite, « En sous-commission, nous n'avons pas réussi à savoir comment définir l'excision. Nous n'avons pas pu écrire dans la loi que nous nous référons à une pratique qui prévaut de la Somalie au Sénégal. Mais ce que nous entendions par là était clair, selon une compréhension du bon sens. » Ce qui signifie aujourd'hui en Suisse que la chirurgie esthétique génitale est techniquement inclue dans la loi contre les mutilations génitales féminines. Cependant, ce qu'on remarque, c'est qu'elle en est discursivement exclue. Et ça veut dire, le Parlement dit, je cite, « Au cours de la discussion par article, les députés ont débattu longuement de la formulation à adopter afin de décrire le mieux possible les actes répréhensibles, sachant que l'interdiction ne concernait pas tous les types de lésions portées aux organes génitaux féminins, mais uniquement les excisions. Sur proposition de la majorité de la commission, le Conseil a finalement adopté une tournure générale qui n'exclut pas expressément les atteintes considérées comme permises. Au nom de la majorité de la commission, Anita Tanei, qui est une socialiste de Zurich, a souligné à cet égard que les autorités pénales et les tribunaux devaient faire preuve de raison en évitant qu'une opération esthétique fasse l'objet d'une procédure judiciaire. » Fermez les guillemets. Ce qui m'amène donc à observer que seules les pratiques corporelles associées aux immigrés sont considérées comme un problème social à résoudre, alors que les pratiques corporelles locales, comme la chirurgie esthétique génitale, sont considérées de facto comme légitimes Et je dis de facto car les députés n'ont apporté au cours des débats parlementaires aucun argument scientifique pour faire cette distinction. En d'autres termes, il y a une interprétation racialisée de l'exhaustivité, puisque l'interdiction concerne toutes les formes d'excision, même symboliques, et en même temps, elle exclut toutes les formes de chirurgie esthétique génitale, même celles qui impliquent une ablation importante des organes génitaux externes féminins, et ce, qu'elles soient accomplies sur les femmes adultes comme sur les mineurs. On constate donc qu'il y a une instrumentalisation politique de l'excision et de la chirurgie esthétique génitale qui produit et reproduit des frontières discursives entre nous, les Suisses, et eux, les immigrés. Et en effet, cette loi symbolique contre les mutilations génitales féminines a été établie dans un contexte politique particulier en Suisse, où la xénophobie et la figure d'altérité, perçue comme un danger pour la société suisse, étaient particulièrement vives. Alors, comme vous le savez, en Suisse, nous avons la démocratie directe, à savoir que le peuple suisse est amené à voter sur toute initiative ou référendum qui a été signé au préalable par au moins 100 000 citoyens. Et l'UDC fait grandement usage de cet instrument de démocratie directe. Donc, en 2009, le peuple suisse a accepté l'initiative UDC d'inscrire dans la Constitution suisse l'interdiction de construire des minarets. En 2010, les citoyens suisses ont accepté l'initiative UDC de rendre obligatoire le renvoi des criminels étrangers. En 2013, le Parlement a adopté une norme pénale contre les mariages forcés. Et en 2014, le peuple a accepté une troisième initiative UDC de limiter l'immigration dite de masse, qui donc rejette le principe de libre circulation. Alors maintenant, la première application de la loi spécifique contre les mutilations génitales féminines est survenue cet été dans le canton de Neuchâtel. Et cette jurisprudence soulève plusieurs questions. Et je vais vous expliquer pourquoi. Mais tout d'abord, une description des faits. Donc, la prévenue est une Somalienne d'une trentaine d'années, arrivée récemment en Suisse par regroupement familial. Elle est illettrée et séparée de son mari dont elle a été victime de ses violences durant des années. Et c'est son mari qui l'a dénoncée et accusée d'avoir organisé l'excision de leurs deux filles, alors que la mère et les deux filles vivaient encore en Somalie. Donc il s'agit là du premier cas suisse, si ce n'est européen ou mondial, d'une condamnation pour une excision qui a été commise avant l'immigration. Et effectivement, la mère a été condamnée à 8 mois de prison avec un sursis de 2 ans, car la juge a retenu des circonstances atténuantes, mais a appliqué le principe d'universalité de l'alinéa 2 de la norme pénale suisse contre les mutilations génitales féminines. Et que dit cet alinéa? Quiconque se trouve en Suisse et n'est pas extradé et commet la mutilation à l'étranger est punissable. Alors, quelles sont les interrogations qui restent en suspens actuellement encore suite à cette jurisprudence? Premièrement, sachant que l'excision est un délit poursuivi d'office, quel est le devoir de signalement des professionnels concernant les familles qui sont récemment ou anciennement arrivées en Suisse avec une ou plusieurs filles excisées? Car jusqu'ici, le devoir de signalement ne concernait que des cas d'excision commis après l'immigration. Deuxièmement, quel est le droit d'asile pour des familles qui entrent en Suisse avec des filles excisées, puisqu'il y a le risque qu'elles en soient exclues pour des raisons d'indignité au sens de l'article 53 de la loi suisse sur l'asile, qui donc dit « l'asile n'est pas accordé aux réfugiés qui en est indigne en raison d'actes répréhensibles ». Troisièmement, ce cas pose la question de si on doit tenir compte, et si oui, comment, du fait que la dénonciation de ces excisions s'est déroulée dans une situation de séparation conflictuelle où le mari a vraisemblablement voulu se venger de sa femme qui demandait la séparation, après qu'elle ait subi des violences conjugales, dont l'étranglement, pour lesquelles le mari a été condamné quelques années auparavant. Et puis finalement, quelle protection peut-on assurer aux enfants dans la mesure où, vous le savez peut-être, la norme pénale contre les mutilations génitales féminines en Suisse fait partie de la liste des délits qui entraînent une expulsion obligatoire suite à la mise en œuvre de l'initiative UDC sur l'expulsion des criminels étrangers. En d'autres termes, toutes ces questions mettent en évidence non seulement la complexité de la lutte contre l'excision, puisque la condamnation d'un acte d'excision peut parfois soulever plus de questions qu'elle n'en résout, mais aussi pose la question de si c'est vraiment une loi appliquée dans l'intérêt des femmes ou si ce n'est pas plutôt une loi qui sert les politiques migratoires suisses. Et donc en conclusion, on observe qu'il y a des incohérences au sein de la loi suisse contre les mutilations génitales féminines qui génèrent un double standard dans l'interprétation de ce que constitue une mutilation sur les organes génitaux féminins. Et c'est pourquoi il est possible d'avancer que ce double standard peut entraîner trois conséquences potentielles. Premièrement, le renforcement d'un sentiment de stigmatisation au sein des communautés immigrées. Deuxièmement, la perte de crédibilité dans la lutte contre l'excision. Et troisièmement, la suggestion implicite résultant de la légalité de la chirurgie esthétique génitale que cette opération pourrait constituer une alternative symbolique à l'excision dans un contexte d'immigration. Et voilà, je vais m'arrêter ici avec ces questions ouvertes. Merci beaucoup.